France Inter.
Aujourd'hui, la seconde main, un modèle vraiment durable, raconté par...
Mohran Naitmazi, fondatrice de CMCM, le média consacré à la seconde main.
France Inter. La Terre au carré. Mathieu Vidard.
Ce fut presque une des grandes dates de leur vie. Ils découvrirent le marché aux puces. Des chemises Arrow ou Van Heusen, admirables à long col boutonnant, alors introuvables à Paris, mais que les comédies américaines commençaient à populariser, s'y étalaient en pagaille à côté des trench coats réputés indestructibles, de jupes, de chemisiers, de robes de soie, de vestes de peau, de mocassins de cuir souple. Ils y allèrent chaque quinzaine, le samedi matin, pendant un an ou plus, fouillés dans les caisses, dans les dans les amas, dans les cartons, dans les parapluies renversés, au milieu d'une cohue de teenagers à rouflaquettes, d'Algériens vendeurs de montres, de touristes américains, qui sortis des yeux de verre, des huit reflets et des chevaux de bois du marché Vernaison, erraient un peu effarés dans le marché Malik, contemplant à côté des vieux clous, des matelas, des carcasses de machines ou des pièces détachées, l'étrange destin des surplus fatigués de leurs plus prestigieux shirtmakers. Et ils ramenaient des vêtements de toutes sortes, enveloppés dans du papier journal, des bibelots, des parapluies, des vieux pots, des sacoches ou des disques. Les choses de Georges Perec, 1965.
J'ai trouvé un super petit camion, donc pour l'anniversaire de mon petit-fils. 3,50 euros, puis c'est très bien pour la planète.
Bonjour Mohran Naitmazi.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, vous qui publiez aux éditions Peregrine Seconde Main, une nouvelle économie des objets. Est-ce que le texte de Perec à l'instant et la découverte du marché aux puces vous raconte quelque chose de familier?
Ce texte est splendide. Il raconte les puces de Saint-Ouen, un bastion historique de la seconde main. Un lieu comme on n'en trouve pas ailleurs.
Vous dites que vous êtes intéressé justement à la seconde main parce que les objets chez vous étouffaient littéralement.
Ouais, alors je sais pas qui étouffait, mais oui, j'ai eu une période, c'est vrai. Alors j'ai pas eu, je pense, la fièvre acheteuse, mais comme beaucoup d'entre nous, je pense, à un moment donné, il y a eu trop d'objets chez moi. Je me suis sentie envahie et je me suis mis à questionner ça, et notamment ces flux d'objets, ça rentre, ça part, pourquoi, qu'est-ce que j'achète et qu'est-ce que c'est la seconde main.
Donc vous avez questionné et puis vous êtes passé à l'acte aussi après?
Oui, j'ai beaucoup liquidé, donné et vendu aussi. Je me suis prêtée à cet exercice-là et j'en parle dans ce livre, évidemment. J'ai un peu testé, je pense, toutes les pratiques de la seconde main, du troc à l'achat, à la vente, au don.
Donc vous êtes bien placé pour en parler et c'est l'objet de cet ouvrage. C'est vrai qu'on a l'impression aujourd'hui que la seconde main est partout, mais comment est-ce qu'on pourrait définir ce basculement qui a quand même transformé beaucoup ce vieux réflexe de nécessité en une tendance de consommation ultra valorisée aujourd'hui?
La seconde main est partout, oui, c'est aussi une grande impensée, et la définir, à mon sens, c'est très compliqué. Et c'est aussi pour ça que je me suis attelée à ce travail d'écriture, pour savoir qu'est-ce que la seconde main. On parle d'occasion, on parle de seconde main de manière assez similaire. La seconde main n'est pas définie juridiquement, moi j'ai pas de définition toute faite à vous donner. Les sens sociaux, on définit cette seconde main à travers la circulation des objets, la transmission. Dans seconde main, il y a main, de la main à la main. Il y a vraiment cette idée de circulation, de flux.
Et c'est une économie qui n'est pas récente, hein.
La seconde main existe depuis que les objets existent. Ça existe depuis tout temps.
Quels ont été les déclencheurs d'ailleurs qui ont permis de lever le tabou du déjà porté ou déjà utilisé dans notre société occidentale? Parce que même si c'est effectivement très ancien, aujourd'hui il y a quand même un regain d'intérêt pour la chose. Mais il faut passer une petite barrière quand même.
Oui, je pense que la seconde main aujourd'hui a ses publics. J'aime bien parler de pluriel. Il y a différents publics. Il y a des personnes économiquement contraintes qui vont se tourner par la seconde main, pas par choix. Mais aussi parce qu'on valorise cette pratique dans un récit plutôt dominant. Aujourd'hui, ce qui n'a pas toujours été le cas, il y avait un peu cette honte. J'en parle beaucoup, de la honte, de la peur, de l'objet rejeté, de la saleté autour de la seconde main. Et puis, il y a des publics aussi, je pense, sensibilisés, qui essayent de faire mieux, de consommer différemment.
Donc on est passé un peu du stigmate de la pauvreté à quelque chose aujourd'hui qui est la fierté de faire la bonne affaire aussi, hein.
Oui, il y a un grand sentiment de fierté pour certains et certaines à chiner, à trouver l'objet convoité. De moins en moins, je trouve, sur le terrain, on me fait part de cette honte autour de l'objet déjà usagé, de cette seconde main.
Donc il y a quelque chose de plutôt valorisé quand même, hein.
Il y a une bascule.
Ouais. Est-ce qu'on peut dire que la seconde main, c'est devenu aussi une réponse aux dérives de la fast fashion et de l'obsolescence programmée qu'on subit depuis des décennies et dont on parle de plus en plus là aussi, hein ?
Alors oui, j'aime dire que la seconde main, en principe, c'est une bénédiction environnementale. Elle a toutes les vertus et il y a énormément de promesses derrière la seconde main, et notamment une promesse écologique forte. On pourra davantage en parler, je pense qu'il faut la décortiquer
absolument,
aussi.
Oui.
Mais il faut se tourner aussi vers la seconde main pour ces raisons-là. Et de principe, elles sont bonnes.
Avec la seconde main, c'est vrai que les placards deviennent parfois de vraies cavernes d'Ali Baba. On va écouter l'extrait de ce reportage de France 2 en 2021.
Tout au fond de ce petit placard, bien enfoui, Stéphanie Robinet a découvert qu'elle possédait quelques biens de valeur, comme ce chemisier.
Ça, c'est devenu un petit trésor, voilà, qui va faire le bonheur de quelqu'un.
Un petit trésor, grâce à Vinted. Elle revend les vieux vêtements de famille qui croupissaient au fond des armoires depuis des années. En quelques années, l'application a imposé la mode de la seconde main. Désormais, c'est un catalogue de 300 millions de pièces qui séduit 18 millions d'utilisateurs en France, son plus gros marché.
Et Vinted, effectivement, nous sommes le plus gros marché de cette plateforme. Incroyable, pourquoi ? Comment on l'explique, ça ?
Vinted, c'est un site lituanien fondé en 2008, qui cartonne aujourd'hui.
En France ?
En France, alors en Europe, qui s'exporte aussi récemment aux États-Unis. Vinted a fait de la France son premier marché. Pourquoi ?
Alors pourquoi les Français ont pris à l'hameçon ?
Il y a une culture forte en France de la brocante. En Chine, on a toujours mis nos objets sur le trottoir. Je pense là au vide-grenier, hein, ces espaces domestiques qu'on investit tous les dimanches. Enfin, tous les dimanches, non. Deux fois par an maximum, mais le dimanche. On donne aussi beaucoup l'histoire de la France et de la seconde main est beaucoup liée à l'économie sociale et solidaire. Je pense là au réseau Emmaüs, un vrai maillage de la seconde main dans nos territoires. On donne, on a vraiment cet élan de générosité et Vinted surfe dessus, bien sûr.
Et donc le marché français était préparé en fait, hein, à une plateforme comme celle-là ?
Oui, je pense qu'en tout cas, il était prêt.
Ouais.
Et quand Vinted se lance en 2013, la vraie bascule, je pense, a été 2015, où ils ont intensifié leur publicité. Et pendant deux ans, moi, j'ai été une des premières utilisatrices de Vinted au moment du lancement. Bah, la promesse est alléchante, hein, se faire un peu d'argent, vider nos placards, avec derrière aussi un fond de « c'est écologique ». Pourquoi ne pas le faire ?
Et pourquoi ça n'a pas pris aux États-Unis alors aussi facilement ?
Oh, le marché est différent, il est beaucoup plus vaste. Il faut s'envoyer des colis. C'est aussi une des promesses de Vinted, d'avoir fluidifié l'achat, la revente. Pendant un temps, on pouvait échanger de la main à la main, un peu comme certaines applications, je pense à Le Bon Coin. On pouvait vendre, acheter à un voisin, ce qui est de moins en moins le cas. Et dans des territoires assez vastes, la France est relativement petite, c'est un peu plus compliqué d'un point de vue logistique.
En tout cas, c'est vrai que ces plateformes numériques, donc Vinted ou Le Bon Coin, puisque vous le citez, elles ont transformé notre rapport psychologique aussi à l'objet qu'on possède.
Oui, c'est ce que je montre dans le livre. Il y a cette idée de je revends, je fais une bonne affaire et on oublie l'acte antérieur, celui d'acheter. Et je pense que c'est un ensemble, qu'il faut voir ça comme un système et d'envisager de manière assez décloisonnée l'acte de revendre est assez erroné. Auparavant, il y a eu un achat. À combien je l'ai acheté, pourquoi je l'ai acheté, combien de temps je l'ai gardé, quel a été l'usage de ce bien. Et aujourd'hui, on se concentre plus tellement sur l'amont, mais sur l'aval.
Est-ce qu'on peut parler d'une vraie démocratisation de la consommation grâce à ces marchés aujourd'hui? Ou est-ce que finalement, ça reste quand même un luxe de personnes qui sont à la fois informées et connectées?
Ce mot démocratisation, je le trouve très intéressant parce que la seconde main, historiquement, alors pas seulement, mais en très grande partie, était réservée au public plutôt précaire. Donc cette idée de démocratisation, ça a toujours été la chose du peuple. Je pense plutôt qu'il y a une montée en gamme et une massification des usages et de la circulation de nos objets.
Donc c'est un marché ambivalent en fait. Hein.
C'est un marché ambivalent, moi j'aime bien parler au pluriel. La seconde main pour moi ne veut pas dire grand chose. Peut-on parler de les secondes mains, ou alors peut-être que les auditeurs auront d'autres mots à nous proposer?
Ah ben allez-y.
On parle de recommerce peut-être davantage et de notions de réemploi. Mais seconde main...
Recommerce, c'est ça?
Recommerce, oui.
Bon, ben, si vous avez d'autres termes, en tout cas, vous pouvez nous les envoyer sur la page de la Terre au Carré. Morad Netmazi, quelles sont les motivations des Français qui se tournent vers l'occasion? Est-ce que c'est pour sauver la planète ou pour d'abord sauver leur porte-monnaie?
C'est une marge de manœuvre dans des budgets contraints. C'est vraiment, à mon sens, et les études de marché le montrent, hein, ce qui guide l'achat seconde main.
Ouais.
Après, il y a des publics seconde main, ceux qui n'achètent que de la seconde main, 16%. C'est très peu, je pense que j'en fais partie. Il n'existe pas, pour le volet écologique, un persona, un public qui achèterait, ou alors il est résiduel, de la seconde main seulement pour des raisons écologiques et pas du tout de produits manufacturés, industriels, neufs.
Vous parlez des gens qui achètent, et puis il y a les gens qui vendent
bien
aussi.
Sûr.
Et là, c'est pas toujours le même public non plus. On voit des gens qui ont beaucoup d'argent et qui vendent des choses aussi de prix, à prix cassé évidemment, mais qui passent aussi par ces plateformes.
Alors oui, je pense que ces plateformes ont facilité l'acte de revendre et il y a une sorte de financiarisation du quotidien. On va acheter dans la perspective de revendre ou alors se dire oh, l'achat décomplexé, j'achète, je pourrais le revendre ou alors je vais acheter et je vais peut-être me faire une petite marge.
C'est ça. Et même quand on est riche, ça fait plaisir, c'est ça?
Oui, c'est ça. Il y a un peu cette frayeur. Je montre qu'il y a beaucoup d'émotions autour de la seconde main. Il y a aussi la dimension, le jeu. C'est très ludique.
Ouais. Vous dites que vous n'achetez vous-même que en seconde main aujourd'hui?
Oui, et j'achète très peu.
Alors c'est ça, c'est ce que j'allais vous demander. Comment achetez-vous alors précisément? Parce que vous faites quand même aussi la critique de ce système. Donc comment est-ce que vous l'embrassez finalement?
Aujourd'hui, j'achète très peu. Notamment parce que les objets, à un moment donné, m'ont étouffée. Et j'achète en seconde main, et j'achète de moins en moins en ligne. Notamment parce que je l'ai décortiqué et que ça prenait trop de place dans mon quotidien. Et je montre aussi dans le quotidien des femmes. Et j'aime un lien avec la personne qui me présente l'objet. Je trouve que l'objet de seconde main peut être singulier. J'aime aussi les vieux objets, ce qui est vintage.
Donc il y a des lieux aussi pour ça.
Bien sûr.
On n'est pas obligé de passer par les plateformes. On va se pencher dans un instant sur justement la réalité physique et logistique de ce marché aujourd'hui mondialisé. Et puis vous répondrez au message pour vous, Morad Netmazi, qui arrive sur la page de la Terre au Carré. Pour parler de seconde main, dites-nous quelles sont vos habitudes dans ce domaine. Et puis pour vous entendre également, vous pouvez nous laisser vos notes vocales sur l'application Radio France.
France Inter. Mathieu Vidard, La Terre au Carré.
La vie est trop courte pour s'habiller cher. Cette année, la mode est à la fripe. Alors, pour être in, soyez rétro. La fripe, c'est un peu la brocante dans le textile. On ressort tous les modèles d'après-guerre qui, en leur temps, ont fait l'élégance de nos grands-mères. Où va-t-on les dénicher? Eh bien, un peu partout dans le monde. Et l'unité de mesure pour un fripier, c'est la tonne. Une chose est moins sûre, les vêtements des années 80 seront-ils un jour le rétro des années 2020? Les matières synthétiques de nos jours tiendront sans doute moins bien la route que les matières nobles d'antan.
Ah, les années 80, on les entend bien dans le son là, hein. France 3 Nord, c'était donc en 1985, FR3 d'ailleurs à l'époque avec la petite musique de Raph, Myself Control. Morhan Netmazi, vous êtes notre invité, vous avez été juriste et vous avez fondé donc ce média en ligne SemSem, c'est un site d'information spécialisé dans les économies de seconde main et vous publiez justement Seconde Main, une nouvelle économie des objets, c'est aux éditions Pérégrine. On va entrer avec vous dans les coulisses de la logistique et puis des paradoxes également environnementaux de la seconde main, parce que on imagine souvent que cette seconde main, elle est locale. Mais est-ce que c'est une réalité ou une illusion quand on voit le volume des échanges mondiaux ?
Vaste question que là vous me posez. La seconde main existe depuis que les objets existent et elle était locale. Elle l'est de moins en moins. Et il y a une vraie bascule autour des années 2010-2015 où on a digitalisé cette seconde main. Et avec elle va un flux d'objets, de colis.
Donc ça alimente un bon commerce mondial, c'est ça que ça veut dire ?
Dans un premier temps, ce commerce était hexagonal. Et on ouvre les marchés, on les connecte entre eux et aujourd'hui on échange... En Europe, notre seconde main, oui.
Donc ce qu'on entend, c'est que finalement, cette seconde main, ça continue d'alimenter le système de production. C'est une couche supplémentaire, finalement, au capitalisme. Ça ne change pas tellement la donne, hein, alors qu'on croit faire de bonnes choses en achetant comme ça.
Ce qui est intéressant, je pense, et ce qui est peu fait, c'est de rattacher les économies de la seconde main au modèle industriel. Et... on pourrait être intéressé par la seconde main d'un point de vue écologique en se disant « je fais une bonne action parce qu'il y a une logique de déport ». C'est-à-dire que je ne vais pas acheter ce produit neuf et je vais lui substituer un similaire qui lui a déjà été utilisé. Ça, c'est le meilleur des schémas. Et c'est là que la seconde main est une bénédiction environnementale, lorsqu'elle se substitue. La difficulté est lorsqu'elle s'ajoute. Et c'est un véritable problème parce qu'aujourd'hui, on ne va pas déconstruire nos habitudes de consommation et la seconde main peut être, je ne dis pas qu'elle l'est, elle peut être dans certains cas cette strate, cette couche, ce vernis supplémentaire. Et elle épouse, je le montre aussi dans le livre, certains codes du capitalisme.
C'est ça. Donc elle poursuit finalement, elle alimente en tout cas le robinet de la consommation quand même, beaucoup.
Parlons peut-être au pluriel, là on veut mettre du singulier en parlant de seconde main. De quelle seconde main on parle ? Si c'est une seconde main qui est locale, sourcée, que le gisement est à 100 km de chez soi, je pense notamment à nos friperies qui font vraiment un travail quotidien de tri pour nous apporter des pépites, à portée pas de clic, mais vraiment de pas de porte. Alors tout dépend de là où on habite. Bien sûr, en milieu urbain, on trouve davantage de boutiques physiques, mais on a ces lieux, on a ces acteurs qui travaillent localement et qui sourcent localement nos objets.
Est-ce qu'il y a une différence de perception selon les générations autour de la seconde main aujourd'hui, notamment chez les plus jeunes, hein, qui semblent être quasiment nés avec le réflexe de la revente ?
Oui, je pense que c'est générationnel. On conservait les objets, on les réparait, on les entretenait, on les chérissait aussi beaucoup, ce qu'on fait
toujours. Ça, il y a longtemps quand même. Hein.
Il y a longtemps, je ne sais pas.
Ça fait quand même quelques décennies qu'on a oublié la réparation.
Je pense que la société de consommation a bouleversé cette économie de la seconde main pour la rendre extrêmement plurielle. Et pour certaines, assez précaires, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, pour certains, plutôt les jeunes, même si je ne veux pas faire de généralité sur ce sujet-là, hein, j'ai beaucoup documenté les études de marché et aussi les études académiques sur le sujet, les jeunes donnent aussi. Ils revendent aussi beaucoup, oui. Là où les publics plus âgés vont garder. Et ne vont pas tellement vendre, plutôt donner, garder, entretenir, oui, beaucoup.
Quels sont les objets qui circulent le plus d'ailleurs et pourquoi certains secteurs comme l'électronique ont mis du temps visiblement à s'imposer ? Donc le textile, ça domine largement ?
Le textile circule, c'est indéniable. Il circule aussi vite que le vêtement n'est vendu. Mmh. Donc j'ai envie de dire, plus on met de vêtements en marché, plus on en retrouve sur ce marché dit secondaire. Mmh. Pour le sujet des technologies, des smartphones, je pense là au reconditionné, y a un vrai enjeu dans la seconde main, c'est la sécurité. Et le reconditionné offre une promesse très chouette, celle de remettre en l'état et d'apporter une garantie sur le marché, là où lorsqu'on échange entre particuliers, notamment tout ce qui est matériel technologique, bah, on ne les a pas ou peu ces garanties-là. Ça repose sur une confiance.
C'est ça. Donc c'est important de rassurer l'acheteur.
Bien sûr. Et c'est ça aussi qui booste la seconde main. C'est la sécurité, la confiance que l'on peut apporter aux usagers, aux utilisateurs, aux consommateurs aussi.
Morane Natmazi, est-ce que cette économie risque pas de créer aussi une forme de saturation avec des objets justement en circulation par rapport à la demande réelle aussi qui peut y avoir?
Bah, elle sature déjà les espaces. On est entouré d'objets, on a trop d'objets et on a énormément d'objets sur le marché de la seconde main, les marchés de la seconde main. Et on a certains acteurs qui ont les mains dans le cambouis, qui ont les mains dans nos objets et qui peinent nécessairement à valoriser ces objets.
Vous pensez à qui alors en particulier?
Bah, je pense aux acteurs historiques de l'économie sociale et solidaire à qui on offre ces objets, on va donner...
Les dépôts-ventes, hein, c'est ça ?
Je pense à Emmaüs, pour ne citer que lui, un mastodonte historique fondé par l'abbé Pierre en 1949. On a d'autres réseaux aussi de boutiques avec une dimension sociale et une promesse... Et en pratique, de l'insertion par l'emploi de personnes précaires, éloignées de l'emploi, à qui la seconde main, la valorisation des objets offre une autre issue, une possibilité et clairement un revenu.
Comment justement se sont adaptées ces boutiques physiques traditionnelles, hein, justement les dépôts-ventes ou les ressourceries, comment elles se sont adaptées à la concurrence féroce quand même des géants du web aujourd'hui ?
Alors, les acteurs de la seconde main vont dire, locaux vont dire que c'est très difficile. C'est très difficile, alors, un, de faire venir dans ces lieux, oui et non, parce que souvent, il y a un espace de don, un espace d'achat-revente, mais de faire acheter, là où des plateformes, je pense notamment à Vinted dans le textile, bah, pousser les prix vers le bas. Et donc, lorsqu'on fait un arbitrage, on trouve souvent, lorsqu'on scanne par exemple un produit ou un livre, bah, moins cher peut-être sur une plateforme. Donc on est tenté d'aller ailleurs que de soutenir cette économie-là, nos commerçants et puis le tissu associatif bien sûr.
Le problème de la qualité, parce que vous en avez parlé là il y a un instant, est-ce que les produits aujourd'hui sont assez solides pour vivre précisément plusieurs vies comme autrefois?
Bah, oui et non. La seconde main jetable, et ça je tiens vraiment à parfois à préciser de quelle seconde main on parle. Il y a cette seconde main qui est robuste, une économie assez résiliente parce que les produits en circulation sont de bonne facture. Je pense notamment au vintage ou aux produits d'antan. Et puis tout ce qu'on vient de mettre en marché, j'exagère évidemment le trait, mais en tout cas hors produits artisanaux, hors produits de bonne facture, ces produits low cost inonde notre marché.
Donc là, on a aussi un défi autour de ces produits neufs dont la qualité s'effondre beaucoup et avec des déchets précoces. Hein, c'est tout le problème aujourd'hui aussi.
Oui, c'est ça. Je pense qu'il faut penser la seconde main avec la première main, ce marché primaire. Qu'est-ce qu'on met en circulation? Et il faut designer des produits, les concevoir, éco-concevoir, pour leur permettre une seconde vie. Sinon, on est sur de la valorisation et on arrive en bout de chaîne sur du déchet.
Morane Natmazi, on va écouter l'extrait de ce reportage d'Euronews en 2022 qui concerne l'envoi des vêtements dans les pays du Sud. Et là aussi, c'est un sujet. Hein.
Le marché de Gikomba à Nairobi au Kenya est le centre névralgique du vêtement d'occasion dans le pays. D'innombrables pièces venues d'Occident ou d'Asie arrivent ici régulièrement, permettant à certains comme John Mwangi de gagner leur vie.
Ce métier me permet de subvenir à mes besoins quotidiens. Je n'ai pas de compétences dans d'autres métiers. Si ce marché s'arrêtait, je serais bloqué et je n'aurais nulle part où aller.
Mais le marché de la seconde main a également une face moins reluisante. Nombre de ces vêtements ne sont pas revendus et finissent ici dans les décharges à ciel ouvert.
Morane Netmazi. Alors c'est vrai qu'il y a un double problème, hein, c'est qu'à la fois il y a des personnes qui gagnent un peu d'argent dans ces pays avec ces textiles, et puis aussi des pays qui commencent à refuser nos dons de vêtements, qui étaient autrefois d'ailleurs perçus comme une aide, parce qu'aujourd'hui elles viennent les envahir et les polluer. Hein.
Oui, bien sûr, quels vêtements on envoie? C'est ça la question. Envoyer nos vêtements low cost pour 3 francs 6 sous sur place, les observateurs parlent de colonialisme, de l'homme blanc qui envoie ses rebuts. Ne parlons pas de déchets dans la mesure où c'est encadré, mais évidemment, on ne sait pas quoi faire aujourd'hui de ce qu'on a. Historiquement, on a toujours fait circuler les vêtements, il y a un import-export, mais là, les quantités sont astronomiques, elles n'ont jamais été aussi importantes. Mmh.
On va voir dans un instant si la seconde main pourrait peut-être dessiner quand même une société plus sobre, mais aussi plus juste. Vous avez déjà esquissé des éléments de réponse et puis vous allez répondre aux messages qui arrivent pour vous et aux témoignages sur la page de La Terre au Carré, nos réseaux sociaux. Et puis pour vous entendre également, vous pouvez nous laisser vos notes vocales sur l'application Radio France.
La Terre au Carré, Mathieu Vidard sur France Inter.
Et notre invité Morane Netmazi avec ce livre aux éditions Pérégrine, Seconde Main, une nouvelle économie des objets, avec beaucoup de messages pour vous, des témoignages que je vais vous transmettre dans un instant. Est-ce que cette seconde main ne risque pas de devenir une consommation de classe, où finalement les riches ont acheté le beau vintage et les plus pauvres les restes de la fast fashion?
Ah, c'est un beau sujet.
Est-ce qu'il y a une dérive réelle là-dessus, avec une gentrification finalement de la seconde main?
Il y a une gentrification de la seconde main. Est-ce qu'elle éloigne la seconde main de son public historique et un peu plus précaire? Sûrement. En tout cas, c'est un fait social et qui nécessite des compétences, un regard, un œil sur l'objet, le bel objet, celui qu'on peut transmettre. Je pense que la seconde main est faite pour tout le monde. Mmh. Elle offre une promesse à tout le monde.
Mais c'est vrai qu'on voit des pièces de qualité qui voient leur prix s'envoler hein, sur les plateformes spécialisées. Hein. Ça existe aussi.
Bien sûr. Après, on peut toujours chiner et trouver de beaux objets. Je pense notamment en vide-grenier, chez des acteurs de l'économie sociale et solidaire. On peut trouver.
Ouais,
après,
ce que
la
vous
question,
dites.
C'est est-ce qu'on a l'œil? Est-ce qu'on a le flair? Est-ce qu'on sait chercher? Est-ce qu'on prend ce temps-là? Et le temps, c'est de l'argent. Et flâner, prendre ce temps-là... c'est peut-être un regard et un luxe en soi.
Donc, il faut soutenir les acteurs historiques, c'est ce que vous dites. Hein.
En tout cas, je pense qu'il ne faut pas les mettre en marge. C'est eux qui ont fait la seconde main et qui aujourd'hui souffrent de cette gentrification de la seconde main. Et oui, il est intéressant, dans un pluriel, de ne pas les mettre de côté, là où aujourd'hui, les plateformes ont pris une place immense dans nos vies.
Et l'aspect solidaire est parfois totalement effacé, hein.
Oui, c'est pour ça que je dis qu'il y a des secondes mains. C'est qu'il y a une seconde main marchande, spéculative, la financiarisation du quotidien. J'achète dans la perspective de revendre pour des tout petits produits, des gadgets ou des produits luxueux, des bijoux, etc. Où je développe des compétences et des connaissances aussi pour pouvoir revendre ce produit. Et puis, de l'autre côté, il y a des acteurs peut-être à soutenir ou tout simplement... acheter proche de chez soi, enfin, un peu de raison aussi dans cette seconde main me paraît essentiel.
Morane Netmazi, est-ce qu'on pourrait imaginer un futur où la location d'objets pourrait remplacer totalement la possession même d'occasion?
Oui, on peut tout imaginer.
Et vous l'avez fait d'ailleurs, non?
Moi, je loue très peu. Mais il y a des acteurs qui sont en train de se structurer et d'organiser un vrai système de location aujourd'hui pour tous les objets, pour les vêtements.
En tout cas, vous avez imaginé un futur dans votre livre.
Ah, bien sûr.
Il y a l'épilogue 2055, Retouchine, c'est ça?
Oui.
C'est quoi Retouchine ?
Retouchine, c'est un récit futuriste où j'ai essayé de faire un petit pas de côté et d'imaginer qu'est-ce qu'une seconde main dans un monde contraint. Là, aujourd'hui, on a le choix, le loisir de chiner, de chercher, de trouver un produit, un bien, un objet qui nous plaît. Mmh. Peut-être que la suite, dans un monde plus contraint, plus resserré, n'offrira pas cela.
L'ancien Carrefour s'appelle désormais Retouchagne en 2055. C'est donc un centre commercial du réemploi le plus grand de France. Sur la façade, des écrans géants affichent plus 7% d'objets sauvés cette semaine. Depuis le décret d'alignement extra-financier de 2047, le bonus du PDG augmente à mesure que ces chiffres progressent. Bref, le capitalisme se porte toujours aussi bien finalement.
Peut-être.
Si j'en juge par votre fiction en tout cas.
Oui, peut-être. J'ai imaginé différents récits dans lesquels je me suis prêtée à l'exercice « C'est quoi la seconde main après-demain ?» Aujourd'hui, je ne sais pas si on pense la seconde main aujourd'hui, mais demain. Et pourtant, c'est un enjeu de société.
Est-ce que le métier de réparateur est en train de redevenir noble et central dans cette économie aujourd'hui ou pas ?
Bien sûr. Il en faut davantage et c'est un métier, les acteurs de terrain vous le diraient mieux que moi, assez pénurique. Il y a une vraie demande. Il y a aujourd'hui des centres de formation créés par des acteurs du monde économique pour ressusciter ces savoirs d'antan lorsqu'ils ont disparu ou au mieux les maintenir. On est en train de les perdre et c'est essentiel pour tout cet écosystème du reconditionné, cette activité économique centrale, non délocalisable. Des observateurs parlent de souveraineté industrielle en parlant du réemploi. Je pense qu'on peut s'intéresser aussi à ces problématiques-là, ne pas seulement parler d'un univers léger, alternatif, relatif aux vêtements, pas du tout. Mmh. Il faut penser notre économie de demain, notre économie des objets. C'est une nouvelle économie qui est en train là de se reconfigurer avec ce tout numérique. Il faut des garanties, il faut des objets robustes et il faut aussi pouvoir les réparer.
Donc il faut ces métiers de la main, hein, des cordonniers, des réparateurs de vélos, d'électroménagers. Sauf que pour que ça fonctionne, il faut aussi que le coût de la réparation ne soit pas supérieur au prix de l'objet neuf. Parce que sinon, évidemment, on n'a aucun intérêt à faire appel à un réparateur.
Oui, et puis on attend aussi, je pense, de la seconde main qu'elle soit moins chère. On la compare. Pourquoi vouloir la comparer là où peut-être elle offre autre chose ? Un produit de bonne facture a un coût. Il faut être prêt à le payer, je pense.
Est-ce que la seconde main, ça peut être aussi un outil de résistance aujourd'hui ?
Ça a été un objet, un vêtement de résistance. Ça l'est de moins en moins et je pense que ça le sera. Je pense que ça le sera dans une économie du tout jetable, dans une société de surconsommation dans laquelle on est déjà. Lorsqu'on questionne ce système, ce modèle, ces infrastructures, nécessairement acheter, donner, transmettre a une signification.
Quel conseil vous donneriez, vous, à quelqu'un qui veut se lancer dans la seconde main, mais qui a peur de se tromper ou de mal faire, finalement, et d'alimenter un système contre lequel, finalement, il s'oppose ?
Je ne sais pas si on se trompe. Ne pas oublier qu'on fait partie d'un système, qu'il y a des infrastructures assez grandes qui nous échappent en partie, aussi dans la seconde main, et que déjà d'essayer de questionner, de se lancer, ça fait partie de l'expérience. L'objet de seconde main, j'aime dire qu'il ne peut pas être en état neuf. On fait nécessairement des erreurs. On découvre aussi de nouveaux lieux, de nouveaux acteurs. C'est une expérience aussi, la seconde main. Et elle apporte, au-delà de l'objet, pour certains, de la satisfaction, de la fierté. C'est aussi un plaisir, ou en tout cas on peut découvrir de nombreuses choses au-delà du matérialisme.
Allez, on passe aux questions pour vous. Morane est nazie. Claire vous écrit en trouvant étonnant de vous entendre dire que vous n'achetez que de la seconde main. Il y a des domaines, dit Claire, où c'est impossible. Quid des médicaments, des fournitures scolaires, par exemple?
Oui, c'est vrai. Je pense aux objets, je pense à l'électronique, je pense à la décoration, je pense au mobilier, je pense aux vêtements. Mais pour tous ces objets-là, évidemment, j'achète mes médicaments. Ouais. Je vais en pharmacie. Il y a certains produits, notamment les sous-vêtements, que moi j'achète encore, ouais. Encore neuf. Oui.
Elisabeth nous envoie un message vocal, on va l'écouter tout de suite.
Bonjour Elisabeth, j'appelle de Haute-Saône. Je voulais vous dire que votre émission sur la seconde main m'a beaucoup intéressée. Je la pratique depuis 1972, année à laquelle je suis arrivée à Paris. Et en fait, ça me permettait d'acheter des produits presque de haute couture, alors que mon budget était un budget d'étudiante. Au revoir.
Au revoir Elisabeth, merci pour votre message. Morane Netmazi, réaction?
Oui, on peut faire des affaires dans la seconde main. Je pense que c'est aussi un transfuge, peut-être de classe, de budget. La seconde main transcende bien des choses et on peut, lorsqu'on a le loisir, l'œil, le temps, la patience, trouver des objets à bas coût d'excellente qualité.
Stéphanie nous dit, adepte de la seconde main, je n'ai jamais utilisé Vinted qui me semble utiliser les mêmes ressorts que le commerce de neuf. J'utilise en revanche des outils en ligne, mais je restreins mes recherches à 5 km autour de chez moi. Je refuse de faire des kilomètres pour aller chercher un objet ou me faire livrer. Ça, c'est une pratique au moins.
Ouais, c'est un témoignage super intéressant et de plus en plus rare, même si sur le terrain, j'entends beaucoup ça. On me dit, moi, j'aimerais, via les applications, pouvoir commercer. Ce mot est utilisé dans la seconde main aussi, entre particuliers, ouais. Proche de chez moi, échanger presque avec un voisin de palier. Et il y a certaines plateformes, je pense notamment à Vinted, qui est le premier revendeur de vêtements en France aujourd'hui, qui n'encourage pas cette pratique, ou en tout cas ne la facilite pas. Et encourage davantage à expédier son colis et pas forcément proche de chez soi.
Karine nous dit merci de parler des professionnels de l'occasion. Ils représentent quand même des milliers de professionnels en France, antiquaires, brocanteurs, commissaires-priseurs, experts artisans qui rénovent. C'est toute une économie et des métiers difficiles, dit Karine.
Oui, bien sûr, je consacre un chapitre entier au visage de la seconde main et aux professionnels de la seconde main, aux professions historiques de la seconde main, qui l'ont toujours valorisé, ces acteurs de terrain qui aiment leurs produits et qui, au-delà de la circulation des objets, je pense, transmettre autre chose et ont un message à passer et maintiennent le lien entre nous.
Encore deux messages, Louis, qui avoue être devenu un accro, que ce soit sur Le Bon Coin ou Vinted, mais c'est un caractère déraisonnable. J'achète des choses dont je n'ai pas besoin. Vous avez évoqué le fait de faire une bonne affaire, ça joue beaucoup. Du coup, le côté pervers, c'est qu'on remplit à nouveau nos armoires de choses dont on n'a pas crucialement besoin.
Oui, à vouloir faciliter cette seconde main, notamment en ligne, on a accélérer la circulation des objets et le design de la plateforme, pour ne prendre pour exemple que Vinted, encourage à rester un certain temps. On parle de rétention, de notification, de boost. Et puis, il y a aussi ces algorithmes prédictifs qui ont très bien compris ce qu'on aimait, qui nous proposent ces produits.
Avant même qu'on en ait eu le désir, quasiment.
Je ne sais pas, mais en tout cas, vous renseignez un objet, vous le décrivez. Et en général, dans l'heure, vous avez une centaine de propositions équivalentes.
Merci beaucoup, Morane Netmazi, d'être venue au micro de la Terre au Carré aujourd'hui. Je renvoie sur votre ouvrage. Ça s'appelle « Seconde main, une nouvelle économie des objets » aux éditions Pérégrine. Merci à Louise Cognard qui a préparé ce dossier, Julien Dumont à la technique et Jérôme Boulet pour la réalisation de l'émission.